C'est bon, merci. Bonjour. Pardon, je vais aussi m'enregistrer avec mon téléphone. Excusez-moi. Il est temps de mettre ça en route. Voilà. Et c'est bon. Alors, est-ce que n'avez-vous jamais lu un livre ou vu un film où la protagoniste est une jeune femme en quête de l'amour? Bien sûr que oui. Dans ce genre d'histoire, la femme va tomber dans les bras d'un homme ou de plusieurs hommes qui, en fait, ne l'aiment pas vraiment. Et ce drame d'un amour non partagé va se dérouler devant les regards désespérés du meilleur ami de cette jeune femme. Peut-être un ami d'enfance ou du lycée, qui en fait, oui, il l'aime en secret depuis toujours. Cette trame, les triangles amoureux, n'est pas une invention moderne du romantisme, comme on pourrait le croire. On la retrouve déjà dans la Bible. On va voir ensemble aujourd'hui l'histoire d'une jeune femme en quête de l'amour, l'histoire d'un triangle amoureux. Et cela se passe dans les livres de la Genèse. Aujourd'hui, je vous propose de méditer ensemble sur un épisode de la vie de Léa et de Jacob. Et voilà. Alors, j'ai choisi cette œuvre pour nous accompagner dans les diaporamas. Elle s'appelle « Jacob rencontre Rachel et Léa ». Et c'est une peinture murale de Raphaël du VIe siècle que vous pouvez admirer au musée du Vatican à Rome. Mais avant de lire les textes, je vais rapidement nous situer dans les contextes de la Bible. On est où dans l'histoire du salut? J'ai dit déjà qu'on est dans les livres de la Genèse et plus exactement dans ce qu'on connaît comme les cycles des patriarches. C'est-à-dire, il y a les 11 premiers chapitres où il y a la création du monde, de l'homme, de la femme, les premiers pas de l'humanité, on dirait, jusqu'à les drames de la tour de Babel, chapitre 11. Et on dirait qu'à partir du chapitre 12, Dieu fait une espèce de reset de l'ordinateur, d'acapo, on va recommencer. Et maintenant, on va faire un zoom sur une personne très importante dans l'histoire du salut, que c'est Abraham. Et après Abraham, sa famille. Ça commence donc les cycles des patriarches. Abraham aura pour fils d'abord Ishmaël et Isaac. Et celui-ci, celui-là, les deuxièmes, c'est les fils de la promesse. Et c'est quoi cette promesse dont on est au bénéfice, nous, aujourd'hui? C'est que toutes les familles de la terre vont être bénies à travers la semence d'Abraham. Et pourquoi? Parce que cette semence va donner le roi David, mais surtout va permettre la naissance du Messie, de Jésus. Bon, on était à Isaac, qui est le fils d'Abraham. Isaac aura deux enfants, jumeaux, Ésaü et Jacob, et c'est Jacob qui aura finalement la primogéniture et un des protagonistes de notre histoire aujourd'hui. Jacob va se marier avec Léa. Cette dame, on en va parler plus tard, mais ces mariages, les mariages normalement c'est une chose heureuse, mais non, pas ici. C'est malheureusement, c'est célèbre contre la volonté du marié. Mais alors, qu'est-ce que c'est que ça? Bon, en fait, il faut dire que Jacob s'était enfoui de chez lui, de chez Isaac, parce que son frère jumeau, Ésaü, voulait les tuer. En fait, Jacob s'était pas très bien comporté et il avait volé la bénédiction de son père. Ésaü veut les tuer et conseillé par sa maman et son papa, il part chez son oncle Laban, qui est le père de Léa et aussi Rachel. C'est-à-dire, Jacob va se marier avec sa cousine. D'accord, qui s'appelle Léa. Jacob arrive chez Laban et d'abord il rencontre Rachel et il tombe amoureux. Un vrai coup de foudre de Rachel qui est la sœur cadette de Léa. Du coup, Jacob décide de s'installer, vivre et travailler pour Laban, son oncle. Et Laban lui demande, qu'est-ce que tu voudrais comme salaire pour travailler chez moi? Parce que bon, on est famille, mais tu ne vas pas les faire gratis. Et Jacob lui-même lui propose de travailler 7 ans pour lui, pour Laban, si en échange, il lui permet d'épouser Rachel, dont il est tellement amoureux. Alors, la date arrivée, les 7 années écoulées, les mariages se célèbrent comme convenu, mais les lendemains de la nuit des noces, Jacob découvre que la femme à côté de lui n'est pas Rachel, sinon Léa. Oh, Laban l'a arnaqué. En fait, Jacob, il avait déjà arnaqué son papa, si vous vous souvenez. Bon, finalement, Jacob pourra aussi, peu après, quelques jours plus tard, épouser Rachel. Mais il va se retrouver marié à 2 femmes. Et on va revenir donc, tout ça, c'était pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, pour mettre un peu les contextes. Mais maintenant, on va parler de Léa. Parce que si vous avez suivi, vous avez vu qu'elle est obligée à obéir à son père dans sa ruse. C'est-à-dire, on ne sait pas, la Bible ne nous dit pas si elle ment à Jacob, les moments de la nuit des noces. En tout cas, elle ne dit pas la vérité. Elle suit les courants. Et elle se retrouve enfermée dans un mariage où son mari n'a pas du tout donné son consentement. Et en fait, il ne l'aime pas. Et maintenant, on va pouvoir aborder les textes de ce matin, que j'ai mis aussi dans les diaporamas. On est dans la Genèse, chapitre 29, et je vais lire les versets du 31 à 35, c'est la version du semeur. L'Éternel vit que Léa était mal aimée, et il lui accorda des enfants, tandis que Rachel était stérile. Ainsi, Léa devint enceinte et donna naissance à un fils qu'elle appela Rouben. Voyez, un fils, car elle dit, « L'Éternel a vu ma misère. À présent, mon mari m'aimera. » Puis, elle fut de nouveau enceinte et eut encore un fils. Elle dit, « L'Éternel a entendu que je n'étais pas aimée et il m'a encore accordé celui-ci. » Et elle le nomma Siméon. Il entend. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils. Elle dit, « Cette fois-ci, mon mari s'attachera à moi, car je lui ai donné 3 fils. » C'est pourquoi elle l'appela Lévi. Il s'attache. De nouveau, elle devint enceinte et eut un fils. Elle s'écria, « Cette fois, je louerai l'Éternel. » C'est pourquoi elle le nomma Juda. Il loue. Puis, elle cessa d'avoir des enfants. Et là, je vais prier. Oh, merci, merci notre Père pour ta parole. Merci pour ce temps qu'on peut être ensemble à méditer sur ta parole. Je te demande que tu ouvres nos oreilles pour que chacun et chacune puisse recevoir dans ce dont elle ou lui a besoin. Et je te demande que tu ouvres ma bouche pour que ma bouche soit ta bouche. Et je demande ça au nom de Jésus. Amen. Alors, je ne sais pas comment vous ressentez ces textes, ces passages, si vous les connaissez déjà ou pas. Moi, chaque fois que je les lis, ils me semblent d'une tristesse infinie. On peut les lire comme une généalogie des plus dans la Bible, comme beaucoup d'autres qu'on retrouve. Mais si on regarde de près, on va voir la souffrance d'Léa exprimée en chaque enfant qu'elle a. Et Léa n'a rien fait, pour ainsi dire, pour mériter son malheur. Son malheur lui a été imposé. Sa souffrance n'a rien à voir avec des circonstances extérieures. Apparemment, on pourrait dire tout va bien dans sa vie. Après tout, elle est bien mariée, elle a des enfants. Selon les patrons bibliques, c'est une femme réussie. Et quand même, elle est malheureuse. Son malheur est tout dans son intérieur. Elle ne se sent pas aimée et en fait, elle n'est pas aimée. La Bible la décrit comme en ayant des yeux tendres, ce que la tradition juive interprète souvent comme qu'elle pleurait facilement. Et à côté de ça, la Bible décrit Rachel comme belle, rayonnante. Bref, au milieu de ces drames, de ces triangles amoureux, ce qu'on peut voir déjà tout au début, c'est que Dieu est là. Les textes nous les montrent dans les premiers versets. Dieu voit sa situation et il a compassion d'elle. Dieu est là au milieu de la souffrance d'Léa et pareil, Dieu est là aussi au milieu de notre souffrance. Alors, j'ai mis un verset d'un psaume, comme j'aurais pu mettre plein d'autres qui nous rappellent cette vérité. Car l'Éternel est proche de ceux qui ont les cœurs brisés. Et ça, c'est une vérité spirituelle tellement importante. Je suis contente que Manu l'a rappelé plusieurs fois, je pense, ce matin. Et c'est une vérité spirituelle importante que, malheureusement, on oublie si souvent. Parce que quand on va mal, comme Léa, quand on se sent seul, on se croit seul, mais on ne l'est pas. Parfois, quand on va mal, quand on se sent seul, du coup, on fuit Dieu, on se cache. Alors qu'on devrait courir vers lui. Parce que Dieu voit, Dieu écoute, Dieu est touché et Dieu agit, comme on voit dans l'histoire d'Éléa. Jésus, pareil, parce qu'il est Dieu, agit comme ça, comme l'Éternel dans cette histoire. Jésus, tout au long des évangiles, on voit qu'il repère la détresse, il est ému et il agit. Par exemple, une histoire que j'aime beaucoup, la résurrection de Lazare, dans les chapitres 11 de l'évangile de Jean. Il dit que Jésus voit son amie Marie, une des sœurs de Lazare, pleurer. Et ce qui l'accompagnait aussi. Et du coup, les textes disent Jésus fut profondément indigné et ému. Et on arrive à ces versets magnifiques qui disent Jésus pleura. Jésus a eu de la compassion. Et on sait, finalement, il va agir. Et comment il agit? Il ressuscite Lazare. C'est la même histoire qu'on retrouve dans la parabole du fils prodigue. Dans ces cas-là, les pères, ils ne voient pas l'enfant. Déjà, ils guettent l'horizon. Les pères cherchent à qui regarder pour pouvoir déverser sa compassion. Et dès qu'ils voient son enfant, les pères, ils courent. Ils se jettent à son cou et ils les couvrent des baisers. C'est lui et notre Père. C'est lui et votre Père. C'est lui, c'est mon Père. Ça, c'est son modus operandi. Du coup, on sait que Léa est consciente de la présence de Dieu dans sa vie, à côté d'elle. Elle se réfère à lui presque chaque fois qu'elle donne le nom à un enfant. Du coup, là, j'ai remis les textes et en vert, j'ai mis les noms des enfants qui sont des noms parlants. Mais elle pense, c'est-à-dire Dieu écoute, Dieu voit, voilà. Mais elle pense, elle espère que Dieu, en plus d'être présent et d'avoir compassion et de l'écouter, que Dieu va changer sa situation. Parce que grâce aux enfants, Jacob va l'avoir. C'est tout ce que j'ai mis en rouge. Jacob va l'aimer. Jacob va l'écouter. Jacob va finalement s'attacher à elle. Attendez, 4 fils! Dieu la voit, mais elle veut que ça soit Jacob qui la voit. Dieu l'entend, mais elle veut que ça soit Jacob qui l'entende. Dieu est attaché à Léa, mais elle veut que ça soit Jacob qui s'attache à elle. Et voilà, dans l'histoire de Léa, ces triangles amoureux dont j'ai parlé au début. L'Éternel aime Léa, Léa aime Jacob, mais Jacob aime Rachel. Léa a à côté d'elle l'amour par excellence, l'amour de Dieu. Mais cela ne lui suffit pas pour être heureuse. Elle veut à tout prix acheter l'amour de son mari en lui donnant plus et plus d'enfants. Mais l'amour est gratuit. On ne peut pas l'acheter. On ne peut pas forcer personne à nous aimer. On ne peut pas changer les autres. L'amour exige la liberté. En fait, on peut se dire que Jacob est dans les cœurs de Léa une idole parce qu'il a pris la place de Dieu. On va en parler plus un peu plus tard. Mais il y a un retournement d'histoire. Ça, c'est aussi la façon de raconter les saluts dans la Bible. Ça commence mal, mais il y a un moment où ça va se retourner. Léa est consciente de la présence de Dieu dans cette, avec les 4e enfants, ce qui est marqué en bleu, l'histoire de Léa prend un nouveau départ inattendu. Soudain, elle ne parle plus de ses expectatives sur Jacob, dans le nom de l'enfant. Elle décide d'abandonner son identité de victime. Il ne m'aime pas. Elle décide d'être reconnaissante et de louer le Seigneur malgré les circonstances difficiles. Parce que rien n'a changé. Et voilà, je dois vous annoncer, rien ne va jamais changer. La vérité, c'est que Jacob ne va jamais l'aimer comme il aime Rachel. Et cet amour non partagé, en plus, va passer à la suivante génération. Jacob ne va pas aimer non plus les enfants de Léa. Vous imaginez? Mais Léa voulait que les circonstances changent. Elle voulait qu'une personne, Jacob, change. Et elle se retrouve que Dieu change son cœur à elle. Et du coup, l'évolution de Léa, on pourrait dire, hein, du victimisme à la louange, c'est celle de toute conversion. Parce que toute personne, homme ou femme, jeune ou vieux, veut être vue, veut se sentir écoutée, veut se sentir aimée. Tout le monde veut sentir qu'il appartient. Et tout le monde, donc, se lance à la recherche de cet amour qui va combler ses vides. Et parfois, on peut faire comme Léa et penser que le conjoint va combler notre vide. Parfois, on pense que c'est les rôles des enfants ou de la carrière professionnelle. Si seulement j'avais cette poste. Ou c'est les rôles de l'argent dans les comptes bancaires. Oh, les jours que j'aurai cet argent. Ou c'est la renommée dans les réseaux sociaux, par exemple. Qui on a mis à la place de Dieu dans notre cœur? Autrement dit, de qui dépend notre bonheur? Parce que la réponse à cette question dévoilera qui est notre idole. Pour Léa, comme j'ai dit avant, c'est clair, c'est Jacob, parce que c'est de lui qui dépend son bonheur. Le chemin de la conversion, c'est comprendre qu'il faut arrêter de chercher l'amour ailleurs. Par contre, il faut se laisser trouver par l'amour en majuscule, qui était là déjà depuis les débuts, le reconnaître et l'accepter. Il nous a vus, il nous a entendus, il a eu compassion de nous et il s'est attaché à nous, comme dans l'histoire de Léa, comme dans l'histoire de Lazare, comme dans l'histoire du fils prodigue, pareil pour nous aujourd'hui, ici. Et quand on reçoit l'amour de Dieu, on peut faire alors comme lui, et donner la liberté aux autres de nous aimer ou de ne pas nous aimer. Et tout cela sans que cela nous trouble ou nous cause du chagrin. Notre Père Céleste est un gentleman. Il nous lance l'invitation parce qu'il a très envie d'être en relation avec nous, tellement il nous aime. Mais en même temps, il nous laisse la liberté. L'amour exige la liberté. Et nous sommes censés faire pareil avec les autres. On ne peut pas poser sur les épaules des autres, les conjoints, les enfants, cette charge responsable de mon bonheur. Il faut les libérer. Et aussi, nous libérer nous aussi. Léa a dû apprendre à se contenter et à être reconnaissante, même quand les circonstances ne sont pas celles qu'elle aurait voulu. Parfois, les circonstances ne vont jamais changer. Les contentements et la reconnaissance sont libérateurs, même avec des circonstances difficiles, surtout avec des circonstances difficiles. C'est contre-intuitif, mais c'est comme ça. Et on trouve le même message dans les Nouveaux Testaments. J'ai mis là la lettre aux Philippiens, chapitre 4, 4 versets vraiment bouleversant. C'est Paul qui écrit « Réjouissez-vous en tout temps de tout ce que le Seigneur est pour vous. » Oui, je le répète, soyez dans la joie. Faites-vous connaître par votre amabilité envers tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous mettez en souci pour rien, mais en toute chose, exposez vos demandes à Dieu en lui adressant vos prières et vos supplications, tout en lui exprimant votre reconnaissance. Alors, la paix de Dieu, qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera votre cœur et votre pensée sous la protection de Jésus-Christ. La reconnaissance nous emmène à la paix. Parfois, on pense qu'il faut que les circonstances changent. Il faut que les personnes changent. Sinon, je ne peux pas avoir la paix. Mais la paix, c'est une expérience intérieure du cœur. Et la paix que Dieu donne est au-delà des circonstances. Surpasse tout ce qu'on peut concevoir, c'est écrit. J'ai marqué en bleu, je pense, les verbes, parce que je trouve tellement incroyable. C'est-à-dire, être joyeux, ce n'est pas une option, ce n'est pas une possibilité, c'est un commandement. Réjouissez-vous en tout temps, et pas quand j'ai envie, quand je le sens, en tout temps, de tout ce que le Seigneur est pour vous. Et c'est répété, oui, je le répète, soyez dans la joie. Encore, ne vous mettez en souci pour rien. Mais comment pour rien? Pour rien. Mais en toute chose, exposez vos demandes à Dieu, en lui adressant vos prières et vos supplications, tout en exprimant votre reconnaissance. Et c'est là que la paix arrive. Peut-être à la fin de la journée ou à la fin de la vie, on ne va pas gagner l'amour d'une personne en particulier, comme Léa. On n'aura pas ces circonstances dont on rêvait. Mais comprendre et expérimenter qu'on est aimé par celui qui est l'amour en majuscule devrait nous suffire pour nous sentir heureux. Léa vit l'histoire qu'on connaît dans les films ou dans les romans dont j'ai parlé au début. Une histoire où la fille en quête de l'amour se rend compte, après plusieurs chagrins, que l'amour, en fait, était toujours là, depuis les débuts, à son côté, son ami fidèle et dévoué. Pour Léa, les problèmes étaient l'amour en version humaine, limitée, en minuscule. Et la solution pour elle, c'est l'amour divin, en majuscule. Parce que le bonheur, au point de vue biblique, ne dépend pas des autres, qui nous aiment plus ou moins, qui nous détestent. Le bonheur ne dépend pas des circonstances externes plus ou moins favorables. Pour la Bible, le bonheur, la joie authentique, la paix, c'est connaître le Seigneur, être en relation avec lui et dans sa présence. Mais ça suffit de parler de Léa. On va observer maintenant Jacob. Jacob, de son côté, les pauvres, ils voulaient aimer seulement Rachel. Ah, mais alors? Et ça aussi va l'emmener vers les conflits et les désastres. Jacob est les patriarches de l'amour, si on les compare avec les autres patriarches, c'est-à-dire avec Abraham et Isaac. Et pourquoi je dis ça? Parce que chez Abraham, le mot amour apparaît une fois. Chez Isaac, deux fois. Et chez Jacob, sept. En plus, c'est les numéros. Parfait, les sept. Et si, c'est vrai, on peut dire, quand on lit l'histoire de Jacob, que Jacob est un passionné. Et quelqu'un avec beaucoup d'émotions, des sentiments, et qu'il aime plus que n'importe quel autre patriarche. Il a un amour très profond et sincère pour Rachel. C'est vrai qu'il a un coup de foudre quand il la voit. Mais tous ces sept ans de travail acharné pour son oncle, la Bible dit que pour lui, c'était comme quelques jours seulement, tellement il l'aimait. Mais aussi, il ne va pas aimer Léa de l'autre côté. Il va avoir un amour passionné, fantastique pour Joseph et Benjamin, qui sont les enfants de Rachel. Et par contre, il ne va pas trop aimer ses autres 10 enfants. Jacob aussi, comme Léa, à son tour, a des leçons à prendre. Il doit apprendre que l'amour, comme il le conçoit, l'amour humain, ne suffit pas. L'amour romantique, sentimental, passionné, peut diviser. L'amour en minuscule peut faire mal. Il faut aussi prêter attention à ceux qu'on ne veut pas aimer. Il faut les voir. Il faut les écouter, il faut s'attacher à eux. Bref, ce qui demandait Léa dans les textes. Sans cette capacité d'aller au-delà de nos préférences, qui sont tout à fait humaines, qui sont tout à fait logiques et compréhensibles, la tragédie et les conflits vont s'installer. Et ce que va vivre Jacob avec ses enfants, en fait. Il faut comprendre qu'aimer, pour la Bible, n'est pas un verbe d'émotion ni des sentiments. C'est un verbe d'action. On est commander et aimer, comme quoi c'est attendu de nous qu'on fasse des choses, même si les sentiments ne viennent avec. Du coup, l'amour n'est pas une option. Je disais un commandement, une obligation. Et voyons ce que Jésus nous dit à ces propos. Dans l'évangile de Jean, chapitre 15, verset 12. Voici quel est mon commandement, obligation, action pas nécessairement sentiments ou sensations. Il dit, aimez-vous les uns les autres, comme moi-même je vous ai aimé. Ah là là. En fait, Jésus, à cet stade-là, il avait déjà dit qu'il y avait deux grands commandements, en fait, qui résumaient ce qu'on appelle l'Ancien Testament. Les premières, il les prend de Deutéronome. Il faut aimer Dieu avec tout son cœur, toute son âme, toute sa force, toute sa personne. Et les deuxièmes qu'il prend, qu'il tire des Lévitiques, il faut aimer son prochain comme soi-même. Mais là, il nous annonce une chose qui est un cran au-dessus de tout ça. Parce que aimer l'autre comme moi-même, bon, bref, si je suis la mesure de l'amour, mais aimer les uns les autres comme lui aime. Tout de suite après ça, il y a les versets où il dit « Il n'y a plus de grand amour que celui qui donne sa vie pour ses amis. » Du coup, Jésus nous invite à répandre l'amour à tout le monde. Ce qu'on a envie d'aimer et ce qu'on n'a pas envie d'aimer. Et d'aimer même nos ennemis. À être parfait comme notre Père Céleste est parfait. Car lui, il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Les problèmes pour Jacob, c'est l'amour. C'est triste de le dire. Mais c'est l'amour en minuscule, cet amour humain, cet amour émotionnel qui le rend aveugle, sourd et insensible à la détresse de Léa. Il faut dire que dans toute l'histoire de cette couple, il n'y a jamais dans la Bible une conversation entre Léa et Jacob, tandis qu'il y a des conversations entre Jacob et Rachel. Pour Jacob aussi, les problèmes, c'est cet amour, dimension humaine, et la solution, c'est l'amour. En majuscule. En fait, je me rends compte que je me suis trompée au début de la prédication. Le protagoniste de ces triangles amoureux n'est pas en fait Léa, avec tout son malheur et son victimisme, ni Jacob non plus, avec son manque d'amour et on peut dire sa surdité, parce qu'il a bien exprimé sa souffrance. Les vrais protagonistes, c'est l'Éternel. C'est notre Père Céleste qui nous marque les chemins à suivre. On ne doit pas se contenter à être des Léa, ni se contenter à être des Jacob, mais on doit suivre notre Maître et Sauveur, Jésus. Dieu voit la personne en détresse, a compassion d'elle et agit. Dieu écoute, s'attache et accompagne tout le monde, sans faire distinction des personnes. Ça s'est écrit plusieurs fois, je trouve super beau. Dieu ne fait pas exception des personnes. Et nous devrions faire pareil. Peut-être aujourd'hui, ici, parmi nous, il y a des personnes qui, en écoutant l'histoire de Léa, se sentent comme elle, mal aimées, pas aimées, qui font des efforts à droite et à gauche afin que quelqu'un les voie, que quelqu'un les entende, que quelqu'un s'attache à elle ou lui. Des personnes qui se croient des victimes, qui ont adopté ça comme leur identité. Alors, si c'est ton cas, je te dis, arrête. Arrête de te mentir. Et je peux entendre peut-être la pensée de quelqu'un qui dit, ah mais t'es gonflée Anna, franchement, d'être là, sur l'estrade, avec ta belle vie, à me dire ça, à moi, Léa, la victime, tu vois pas tout ce qui m'est arrivé. Bon, si je me permets de faire ces commentaires et cette exhortation, parce que moi aussi, j'ai été victime. Dans mon enfance, j'ai vécu des choses affreuses que je ne veux pas vous raconter. Mais moi, j'ai été victime, et je le dis bien, passé, parfait, plus que parfait. C'est mon passé. J'ai pleuré toutes les larmes des tristesses qui m'étaient accordées pour cette vie. Le stock est épuisé. Maintenant, si je pleure, c'est des joies. Il faut arrêter. La vie est trop courte. J'ai déjà un âge que je peux le dire. La vie passe trop vite. Pareil, j'ai un âge que je peux le dire. Et la vie est trop belle pour perdre le temps. Il faut changer. Alors, il faut faire ce qu'on a vu que Léa fait. C'est-à-dire, elle s'est installée dans la reconnaissance au lieu du victimisme. Et expérimenter la libération. C'est ce que je ai fait. Et c'est ce que je vous recommande de faire. Parce que quand on décide de croire en Jésus, de suivre Jésus, On doit croire ce que lui, il dit de lui-même. La vérité, les chemins, la vie, nul va au Père sinon à travers moi, blablabla. Bla, bla. Mais aussi, il faut croire ce que lui, il dit de nous. Et qu'est-ce qu'il dit de nous? Est-ce que nous sommes des victimes, comme Léa? Là, j'ai un échantillon de quelque chose que la parole de Dieu dit à propos de vous, de nous tous. Il dit que nous sommes bien enracinés et construits en Jésus, que nous sommes nés de Dieu et le malin ne peut pas nous dominer. Il dit que nous avons la pensée de Jésus. Il dit que nous pouvons nous approcher de Dieu avec liberté et confiance. Il dit que nous avons été arrachés au pouvoir des ténèbres et que nous avons été transférés au royaume de Jésus. Il dit que nous sommes pleinement comblés en Jésus. Il dit que nous avons reçu un esprit qui nous rend forts, aimants et réfléchis. Ça, c'est la vérité. Alors, arrête de t'habiller en victime. T'es l'enfant du roi des rois. Arrête de chercher ailleurs. L'amour t'a déjà trouvé. Il est là, dans les premiers versets de notre texte, dans les premières secondes de ton histoire. Il t'a vu. Il t'a entendu, il a eu compassion de toi et il a agi. Là, j'ai mis de la première lettre de Jean, chapitre 4, verset 19, pour nous rappeler, quant à nous, nous aimons parce que Dieu nous a aimés les premiers. Lui, il nous a aimés les premiers, on peut être sûr de ça. Et Dieu a envoyé Jésus, son Fils unique, pour que par sa mort à la croix, on puisse tous être en relation avec notre Père Céleste, la seule relation d'amour qui va vraiment combler notre vide à l'intérieur. Et si on aime comme il aime, on va libérer les personnes autour de nous. On va arrêter de les forcer à nous aimer. On va arrêter de leur mettre cette poids sur leurs épaules. Mais peut-être il y a des personnes ici qui ne se sentent pas du tout concernées par l'histoire de Léa, mais qui font comme Jacob et ils ne voient pas les problèmes. Après tout, moi j'aime, mais c'est super, et c'est vrai. Ils ne se sentent pas du tout des victimes, des personnes passives. Au contraire, ils sont très actifs. Ils aiment beaucoup, mais seulement les personnes qu'ils aiment beaucoup, voilà. Mais avec beaucoup de passion et d'émotions. Du coup, peut-être ces personnes ne se rendent même pas compte qu'ils ne voient pas qui ? Peut-être certains membres de leur famille ou certains collègues du boulot, ou copains de là où on étudie, ou certains membres de leur église, ils ne les voient pas. Ils ne les écoutent pas et donc ils ne s'attachent pas. Parce qu'ils veulent être seulement avec ceux qu'ils aiment déjà, qu'ils ont choisi comme préférés. Pareil que Jacob. Et du coup, les dangers avec ça, c'est que la souffrance de l'autre, qui n'est pas notre préféré, nous échappe. Et on devient aveugle et sourde et insensible, comme Jacob. Moi, j'ai vécu cette expérience peu après commencer à fréquenter mon église à Barcelone. Un jour, je me suis retrouvée à dévisager les visages d'une de mes sœurs. J'ai deux sœurs. À l'époque, l'une était ma préférée. Ah là là, comme j'aimais traîner avec elle. Elle était ma copine, elle était rigolote, elle était intelligente, on s'amusait bien. Et après, j'avais une autre sœur qui était là, oui, hein, mais bon, bof, pas beaucoup d'importance. Et en fait, un jour, je me suis rendu compte que j'avais presque effacé ma deuxième sœur. Quand j'ai sorti avec ma copine, ma préférée, je la présentais comme ma sœur, pas l'une de mes sœurs, je disais ma sœur. Et du coup, quand le Seigneur a commencé à travailler dans mon cœur, un jour, je me suis retrouvée à regarder les visages de mon autre sœur parce qu'en fait, je ne connaissais pas ses traits. J'avais 30 ans. J'habitais avec elle. Non, c'est très facile de penser que parce qu'on a la familiarité avec quelqu'un, on la voit, on l'entend, on l'écoute. Ce n'est pas vrai. Apprenons donc de notre maître et sauveur, Jésus. On n'est pas venu sur terre pour mendier l'amour. Non, on n'est pas des Léas. On est venu sur terre pour répandre l'amour. On n'est pas venu sur terre pour aimer seulement ce qu'on décide d'aimer. C'est super d'avoir une préférence dans le sens de se trouver bien avec quelqu'un. Mais il faut passer au-delà. Nous sommes venus sur terre pour permettre que l'amour de Dieu se répande à travers nous, partout, sans faire exception des personnes. Bref, on est venu pour aimer comme Dieu aime, avec un amour parfait, qui n'est pas un amour en minuscule, mais un amour en majuscule. Et là, je vous invite à prier. Merci Seigneur pour ta parole qui nous apprend des choses, qui nous encourage, qui nous soutient, qui nous exhorte. Je te demande que ce qu'on a pu entendre, nous tous ici ce matin, ça puisse faire chemin dans notre cœur, Seigneur, et donner des fruits. Pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen.